Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Une exposition célèbre aujourd'hui l'explorateur le plus hardi peut-être du sixième continent. Un sixième continent à la géographie singulière qui a modifié la relation que nous avons au visible et à l'invisible, et surtout à nous-mêmes, l'inconscient. Et donc Freud, Sigmund Freud, dont la démarche a été profondément marquée, évidemment, par la rencontre avec l'hystérie telle que la présentait Charcot dans les cours auxquels il assistait en 1855 à la Salpêtrière. L'exposition intitulée « Sigmund Freud, du regard à l'écoute » est conçue par un grand historien d'art, Jean Clerc. C'est normal qu'un grand historien d'art s'empare d'un sujet pareil, puisqu'André Breton qualifiait la découverte de l'hystérie comme la plus grande découverte poétique de la fin du XIXe siècle. Mais c'est étrange aussi, puisque la beauté est de l'aveu même de Freud, ce sur quoi la psychanalyse a le moins à dire. Pourtant, après l'explosion sur Vienne, après l'explosion sur l'âme au corps ou l'explosion sur la mélancolie, Jean Clerc poursuit là une réflexion sur la puissance des images, sur la façon dont la charge, la libido pourrait-on dire, les motive et nous ouvre une porte sur les profondeurs de notre humanité. Au musée d'art et d'histoire du judaïsme, ces interrogations s'enrichissent d'une interrogation sur l'influence des méthodes d'interprétation des textes sacrés sur l'œuvre de l'inventeur de la psychanalyse qui répondait alors qu'on l'interrogeait sur ce qu'il y avait encore de juif en lui, alors qu'il était tout à fait détaché de la religion, il répondait encore beaucoup de choses et probablement l'essentiel. Écoutons Freud se présenter lui-même.
My name is Sigmund Freud. I started my professional activity as a neurologist.
J'ai débuté ma vie professionnelle en tant que neurologue. J'ai essayé de soulager mes patients névrosés. J'ai découvert des faits nouveaux et importants sur l'inconscient. De ces découvertes est née une nouvelle science, la psychanalyse. J'ai dû payer le prix fort pour ce petit bout de chance. La résistance a été forte et implacable. Finalement, j'ai réussi, mais la lutte n'est pas encore finie.
C'était un enregistrement de 1938, enregistré donc à Londres, quelques mois avant le décès de l'inventeur de la psychanalyse. Pour parler de cette grande question, le rapport de Freud à l'art, interpréter le titre même de l'exposition, du regard à l'écoute, cette sorte d'idée qui est sous-jacente dans un titre pareil, que le monde des images aurait été abandonné au profit de celui de l'oreille, eh bien j'ai un grand psychanalyste avec moi, Gérard Haddad. Bonjour Gérard, vous allez bien ?
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, vous avez pendant de nombreuses années suivi une psychanalyse avec Lacan, ce qui doit être très éclairant, et vous avez particulièrement travaillé, si j'ai bien compris, sur les relations entre la psychanalyse et la judéité dans son invention, et vous avez publié récemment un livre à propos d'un drame que vous considérez comme personnel, au fond, qui est le conflit entre les juifs et les musulmans. Et ce livre s'appelle « Ismaël et Isaac » ou « La possibilité de la paix ». C'est paru chez Premier Parallèle en 2018.
C'est exact.
Et vous êtes un des co-auteurs du catalogue.
J'ai une participation, j'ai écrit un texte que Jean-Claire m'a aimablement, gentiment demandé de participer à cette grande aventure.
Alors, pour parler de cette grande aventure, j'ai avec moi aussi Philippe Comard. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Alors, vous êtes artiste, professeur d'anatomie à l'École des Beaux-Arts.
De dessin et de morphologie.
De dessin et de morphologie, plutôt. Ce qui est quand même la suite d'un très grand personnage, non ?
Écoutez, au début du siècle, le secours était assuré par Paul Richer, qui était en fait l'assistant de Charcot à la Salpêtrière. Et quand on regarde le célèbre tableau de Brouillet, où on voit cette leçon du mardi, où Charcot est en train d'hypnotiser une femme devant un large public mondain, et bien juste à côté de lui, assis à une table, il y a ce personnage qui est Paul Richer en train de dessiner. Parce que une des particularités finalement de toute cette école, c'est que la névrose ne laissant pas de traces sur le cadavre, on avait besoin du temps du vivant de la personne, d'essayer avec la photographie, avec le dessin, de caractériser les symptômes, parce qu'on savait que le jour où cette personne serait décédée, on n'aurait plus aucune trace. Et donc ces dessinateurs et ces photographes sont là pour essayer de détecter tous les comportements atypiques, les asymétries, les crispations, les crampes, les bégaiements, les clignements d'yeux, et donc qui ont constitué une monumentale encyclopédie très connue qui s'appelle l'iconographie de la Salpêtrière et qui a recensé toutes ces photographies, tous ces dessins pour essayer de composer une sorte d'encyclopédie en quelque sorte de la névrose. La névrose étant à l'époque chez Charcot un concept très 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 large, ça englobe toutes les maladies nerveuses. Ça n'a pas un sens aussi restrictif que les névroses ou les psychonévroses chez Freud. Mais voilà, et Freud va assister à ces fameuses leçons du mardi en 1885 quand il vient faire un stage à Paris, et il va être très impressionné. À la fois, il prendra plus tard ses distances vis-à-vis de Charcot, parce qu'il va très bien saisir que finalement le rapport entre le malade et le médecin n'est pas un rapport neutre, qu'en fait il y a tout un phénomène de suggestion qui rentre en ligne de compte. D'ailleurs, quand on regarde très bien ce tableau de Brouillet, qui est vraiment une sorte de scène théâtrale, il y a un public, il y a un metteur en scène, il y a une actrice, il y a des assistants. Eh bien, la malade qui est là sous hypnose, en train de reproduire ce que Charcot appelait une névrose expérimentale, c'est-à-dire de reproduire sous hypnose les symptômes dont elle souffre. En fait, juste en face d'elle, au fond de la salle, il y a un énorme dessin qui représente une femme dans une attitude hystérique avec ce fameux arc. Et en fait, on lui demande exactement de faire ce qui est sous ses yeux, ce qui fait qu'en fait, elle reproduit effectivement ce qu'on attend d'elle.
Alors Gérard Haddad...
Oui, Charcot n'avait aucune envie de soigner ses hystériques. C'est le plus grand neurologue sans doute qui ait jamais existé, mais il n'avait aucun projet thérapeutique à l'égard de... celui qui en avait quand même, que Freud a connu, c'est Bernheim à Nancy.
Qui était une école opposée, il y a eu une sorte de...
Lui, il faisait de la suggestion et il pensait pouvoir, par l'hypnose, soigner. Alors que Charcot, le 19e siècle était marqué par une théorie un peu scandaleuse aujourd'hui, qui serait la théorie de la dégénérescence. Toutes ces... Quand il disait névrose, c'était les femmes hystériques. Les hystéries, les alcooliques, toutes les maladies mentales, tout ça, c'était de la dégénérescence. Ça a donné lieu d'ailleurs à une grande œuvre littéraire qui est celle de Zola. Zola, l'école naturaliste, était marquée par ça. Or Freud, c'est pour ça que personnellement je pense qu'il fait rupture avec le 19e siècle, il dit non, l'hystérie n'est pas une dégénérescence. L'hystérique souffre de réminiscences. Ce sont les traumatismes de son existence qui créent les symptômes somatiques. Et ça, c'est vraiment une révolution et une rupture complète par rapport à cette idéologie 19e-iste qui était assez catastrophique pour ces gens-là, pour ces malades.
Alors il faut dire qu'on est dans une période où il y a une passion pour l'exploration des sources, puisqu'on découvre à ce moment-là l'intérêt que peut avoir... On découvre Darwin d'abord, hein, c'est-à-dire Darwin est publié probablement en allemand, en Autriche,
Freud aimait beaucoup Darwin.
À la fin de 1880, ça l'a beaucoup...
Oh, bien avant, le 1859 c'est l'origine des espèces, oui, je crois que dès 1860 62-63, la première édition allemande, grâce notamment à l'impulsion de Ernst Haeckel, qui était qui a été un des grands disciples de Darwin, oui. Et surtout qui a été alors un des grands maîtres en quelque sorte de Freud, notamment avec l'une de ses célèbres lois, qui était la loi biogénétique dite de la récapitulation, où Haeckel avait imaginé que le développement de l'individu, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ontogénèse, reproduisait en abrégé le développement de l'espèce.
C'est-à-dire la phylogénèse.
Voilà, la phylogénèse.
C'est-à-dire une sorte de relation entre la phylogénèse, donc on pourrait dire l'histoire de toutes les espèces, comme ça, voilà. Et du développement du monde aquatique au monde terrestre, voilà. Je veux dire, de l'ensemble des espèces.
Et que l'individu, en fait, de la fécondation des gamètes jusqu'à l'âge adulte, reproduisait en quelque sorte toute cette histoire de l'évolution. Mmh. Et toutes les œuvres de Freud vont reprendre cette idée, finalement, que si on remonte en quelque sorte dans l'histoire de l'individu, eh bien, c'est quelque chose qui est analogue à l'histoire même de l'espèce.
Oui, mais j'apporterai une nuance quand même, oui. C'est que Freud a été marqué par Lamarck. Oui. Le français Lamarck, qui lui avait cette théorie qui faisait ricaner les darwiniens, à savoir la transmission des caractères acquis. Or, Freud va reprendre, il va soutenir cette idée que c'est pas vrai que les caractères acquis ne se transmettent pas. Et moi, quand j'ai fait mes études de biologie, quand j'ai fait mes études de médecine, il n'y a pas si longtemps quand même, malgré mon âge canonique, on disait ça.
Mais c'était pour Freud une des réponses à la question de l'instinct animal et de la survivance à l'intérieur de la psyché.
Dans Moïse, par exemple, dans son livre sur Moïse, il parle de ça, que le peuple hébreu avait... Et aujourd'hui, dans la biologie actuelle, cette idée lamarckienne revient en force à travers l'épigénétique. Que dans les cytoplasmes, il y a aussi des caractéristiques.
Et que l'épigénétique, si je le comprends bien, c'est l'étude du développement de l'embryon.
Non, l'épigénétique, c'est de trouver que toute la génétique n'est pas dans le noyau. Elle est aussi dans le cytoplasme, dans les mitochondries, etc. Et donc, on a des mesures, des choses scientifiques. Quand en Hollande, par exemple, une population qui a été sous-alimentée pendant une longue période, eh ben, les gens étaient plus petits. Donc, et ils restent plus petits. Donc, il y a une transmission. L'idée de Freud, une transmission des caractères acquis, héritée de Lamarck, aujourd'hui, elle triomphe. Et ça, je trouve ça génial.
Gérard Haddad, vous avez participé, vous avez vu comment cette exposition a commencé dans l'esprit de l'institution du musée d'art et d'histoire, mais aussi dans l'esprit de son commissaire. Vous vous rendez compte qu'il y a un titre quand même étrange. Je trouve que se dire qu'on passe du regard à l'écoute. À l'instant, on entendait Philippe Comard nous parler de cet extraordinaire théâtre de Charcot, cette façon dont l'hystérique sur lequel on faisait cette recherche expérimentale était en quelque sorte l'acteur des choses, montre à quel point le visible était quand même important pour Freud.
Mais avec Freud, justement, je trouve que le titre que Jean-Claire a donné est génial, de l'image à l'écoute. Je trouve qu'il a résumé quelque chose de fondamental dans la démarche.
Pourtant, il n'y a pas un abandon de l'image chez Freud, parce qu'on pourrait dire que...
Non, on ne peut pas dire qu'il y a un abandon de l'image, mais quand même, quand le patient il est allongé sur le divan, il ne voit pas son analyste. L'analyste, d'ailleurs, ne regarde pas tellement son patient. Souvent, pour bien écouter, vous avez les yeux fermés. Donc, il y a cette dimension de l'écoute qui est foncière et fondamentale dans le judaïsme. C'est au fond le credo. Le credo juif, c'est quoi? C'est écoute. Et cette notion d'écoute va se retrouver à chaque moment. Par le nom d'Ismaël, qui est l'ancêtre du monde arabe, du pays arabe, mythiquement, ça veut dire aussi écoute. Cette notion d'écoute, elle est structurante, elle est à tous les tournants de la culture juive. Et donc, pour ça que je félicite Jean-Claire d'avoir trouvé ce titre.
Alors, c'est étrange parce que il y a, si je disais que c'était étrange, c'est pas parce que l'écoute serait secondaire, c'est simplement parce que c'est quelqu'un qui a vécu entouré d'images, qui a vécu parmi les images, et qui a vécu dans une époque où l'ensemble du visible est dans un lieu, Vienne, dans lequel l'ensemble du visible était redéfini. C'était extraordinaire ce qui s'est passé à cette période-là.
Oui, alors c'est très complexe. C'est très complexe le rapport de Freud aux images, parce que à la fois, bon, on sait que les rêves sont d'abord des images, que les fantasmes sont souvent des images, etc. Mais Freud finalement s'intéresse. On est frappé de voir que Freud s'intéresse très très peu, voire pas du tout à la peinture. Certes, il a écrit un petit livre sur Léonard de Vinci, mais c'était surtout pour défendre sa théorie de la sublimation. C'est pas tellement pour analyser des tableaux de Léonard de Vinci. La seule œuvre qu'il a analysée vraiment, c'est le Moïse de Michel-Ange. Et d'ailleurs, il dit dans ce livre œuvres, qu'il ne comprend pas bien la peinture, qu'il est plutôt tourné vers les œuvres en volume. Et quand on regarde l'intérêt qu'il a porté aux œuvres picturales, pratiquement, il n'a commenté aucun tableau ou aucune gravure d'un contemporain, à l'exception de Félicien Rops, d'une gravure de Félicien Rops qui représente la tentation de Saint-Antoine, dans laquelle on voit Saint-Antoine en train de lire le livre des livres au pied de la croix. Malheureusement pour lui, ça n'est pas le Christ qui est placé sur la croix, c'est une très jolie fille avec une couronne de fleurs. Et donc, ça, c'est pour Freud l'occasion de dire que...
C'est pas une jolie fille, c'est une tentatrice.
C'est une tentatrice. Ah,
elle est là pour ça.
Elle est là pour ça, mais surtout, c'est l'occasion pour Freud de dire que le refoulé, quand le refoulé revient, il revient de l'instance refoulante elle-même. C'est-à-dire, oui, c'est là où on ne veut pas le voir que ça revient. Bon. Mais sinon, pratiquement, il n'y a aucun commentaire sur des œuvres d'art. On est frappé de voir que dans la Vienne extraordinaire des années 1900, il ignore Klimt, il ignore Schiele, il ignore Kokoschka. Or, des gens comme Klimt, si on pense aux scènes d'amour de Klimt, vous avez toujours le spectre de la mort qui est là, qui veille au-dessus des scènes d'amour. Donc le rapport entre la pulsion de mort et la pulsion de vie sont des choses extrêmement présentes dans ses œuvres. Si vous pensez à Schiele, Schiele est peut-être le premier artiste à avoir donné une vision non hédoniste de la sexualité, qui est basée sur la solitude, la culpabilité, l'angoisse, et finalement, on peut dire que c'est des thèmes qui sont complètement freudiens, dans la mesure où Freud dit que l'homme est tiré entre d'un côté ses pulsions sexuelles et de l'autre côté la civilisation qui tente de les refouler. Et d'ailleurs, Freud a cette phrase assez, on pourrait dire pathétique. Il dit, il n'était sans doute pas dans les plans de la création que l'homme fût heureux. C'est-à-dire qu'on est tiré entre des pôles qui sont inconciliables, et de toute façon être humain, c'est une position inconfortable.
Mais il ne s'intéresse qu'à la peinture italienne de la Renaissance.
Et ça, il fait une vingtaine de voyages.
25
voyages en Italie.
L'Italie va devenir le berceau de la psychanalyse. Chaque fois qu'il veut la transmettre, jusqu'à son dernier jour, jusqu'au moment où très malade, il est opéré, il emmène sa fille pour transmettre la psychanalyse. Il a cru à un moment donné que c'était Ferenczi, son successeur, il l'amène à Rome. Il avait un rapport quand même, alors, cette question est très importante.
Mais c'est Fliss, non, peut-être, qui l'a mis sur la piste.
Faut savoir que dans le judaïsme traditionnel, l'art pictural n'existait pas. Chez les juifs allemands, comme Fliss, qui était plus jeune que lui d'ailleurs, de 2 ans, Fliss lui parle tout le temps de la peinture. Au moment même, on peut suivre ça avec mon épouse, on a fait ce travail. Au moment où il dit j'ai abandonné ma neurotica, j'ai découvert mon complexe d'Œdipe, il écrit une autre lettre où il dit j'ai compris, je me suis ouvert à ce que tu me racontes depuis si longtemps, l'art, c'est pas ce que je croyais.
Mais on est très tôt, on est vers 1897 quand il écrit cette lettre.
C'est exactement ça, 97-98, il dit j'ai compris que l'art c'est autre chose, c'est une autre dimension. Et je pense, moi personnellement, la contiguïté de ces deux lettres montre une chose, c'est que si Freud ne s'était pas converti, je dirais, à la dimension esthétique de la culture, il n'aurait pas découvert la psychanalyse. Il y a une nécessité pour le psychanalyste d'être sensible à l'art plastique. Dans le monde juif, la musique, c'était fondamental. Les interprètes juifs ont une espèce de monopole du piano, du violon. Mais la peinture, et la sculpture aussi, n'était pas sensible à cela. Les premiers peintres juifs, c'était qui? Pissarro, en France, peut-être, mais qui s'en foutait complètement de son judaïsme. Mmh. Il faudra attendre le Bauhaus, il faudra attendre Chaim Soutine et ses trois amis venant de Lituanie.
Alors, mais le fait, on pourrait être en désaccord avec Philippe Comard, parce qu'on pourrait dire que le fait qu'il parle peu dans ses textes de la psychanalyse est une position wittgensteinienne. C'est ce dont on peut parler, il faut le taire.
Il faut le taire.
Hein, vous êtes d'accord avec ça, Gérard?
Je suis d'accord avec ça. Je suis aussi d'accord avec ce que disait Philippe Comard, savoir que toute l'art de son temps, ça ne l'intéressait pas. Comme Breton va le voir aussi, les surréalistes vont le voir, il les reçoit à peine.
Il leur dit, il est content de l'enthousiasme qu'il crée, mais il ne comprend pas très bien ce dont il parle.
Il y avait une espèce de modestie, finalement, chez lui. Par contre, la peinture italienne, on ne peut pas dire qu'il n'adorait pas. Il était tout le temps en extase dans ses lettres. Il nous montre le fameux Signorelli, le jugement dernier. À cause de lui, d'ailleurs, je me suis tapé tous ses tableaux, j'ai fait tout son parcours.
Écoutez, c'est formidable. Vous tapez, ça a dû être un sacré plaisir.
C'est un grand plaisir. Mais je me demande comment il a fait ça en son temps où les routes étaient si mauvaises, il n'y avait pas de train rapide alors qu'il avait une phobie des trains.
Moi, j'aimerais bien vous emmener quelques instants et ensuite avoir vos explications quand même sur ce paradoxe dont nous parlons, d'un psychanalyste, d'un inventeur extraordinaire qui semble s'intéresser à l'art de la Renaissance, mais pas beaucoup au reste, et qui pourtant vit entouré d'œuvres d'art, il consacre énormément d'argent, déménage dans des circonstances très très difficiles sa collection à Londres quand il doit fuir le nazisme. Donc, et il se trouve qu'on a un témoignage, c'est celui de Engelmann, un photographe qui a photographié le dernier, probablement juste avant le départ de Freud en 38, l'appartement de Vienne. Et donc, écoutons ce qu'il dit.
Et derrière les divans était une chaise où Dr. Freud était assis sans voir le visage du client. En même temps, il pouvait regarder le statue qu'il aime, qu'il touche de temps en temps. Et à la mur, il y a des photos des Abbo Simbel et d'autres images d'art.
Nous sommes toujours dans le cabinet où le docteur Freud recevait ses patients.
La chose qui était la meilleure intéressante pour moi est la quantité des antiquités que je n'ai jamais expectées. Il y a tellement la nombre était tellement grand qu'il n'y a pas d'une espèce ou une place où on n'a pas vu des antiquités. La vue, l'œil ne pouvait pas rester à une place vide.
C'est la voix de Edmund Engelmann commentant sa visite chez Freud, donc Bergasse 19, je crois. Hein, et vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'art et la matière, et nous parlons de l'exposition qui a lieu en ce moment au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui s'appelle Freud, du regard à l'écoute. Et donc, il vit entouré de ces objets, on va essayer d'en décrire quelques-uns, ou en tout cas de voir les types d'objets qu'il avait autour de lui, et puis il l'impose non seulement à son entourage, mais aussi à ses patients. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Comard ?
Ben, d'abord, l'appartement dans lequel il vivait était un très grand appartement qui fait plus de 400 mètres carrés, mais le bureau de Freud et le cabinet dans lequel il recevait ses patients sont deux pièces relativement petites, et la totalité des 3000 sculptures, statuettes, qu'il a collectionnées sur pratiquement 40 ans, parce qu'il commence pratiquement à la mort de son père jusqu'à sa mort, se trouvaient dans ces deux pièces. Donc, le patient, enfin lui-même dans son bureau, mais le patient était entouré dans une sorte de grotte entourée de divinités avec des sphinx, des gorgones, des sculptures à tête d'oiseau, enfin bon, autant de choses qui devaient être très impressionnantes et peut-être réveiller quelques...
Mais de petite taille.
Alors, naturellement, c'était des objets relativement petites.
Je les ai
vus
à Londres. Oui.
Mais, parce qu'elles sont conservées à Londres.
Dans la maison de Freud.
Au musée Freud de Londres. Voilà.
Quand même très 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 impressionnant. Et puis bon, c'est l'intérieur de Freud, c'est pas du tout... Freud est un contemporain d'Adolf Loos, c'est-à-dire d'une esthétique très épurée, quasi Le Corbusier, mais lui vit dans un univers qui est proche de celui du Biedermeier, surchargé, bourgeois de la fin du 19e siècle, où on accumule, les murs sont truffés de tableaux, les tapis superposent les uns aux autres. Bon, donc c'est assez...
Oui, mais il y a un souvenir derrière cette accumulation.
Alors, il y a le souvenir d'abord de la demeure de Charcot qu'il avait visitée.
Ce qui était un choc extraordinaire.
Charcot était... Il admirait Charcot pour deux raisons. Il admirait Charcot parce que c'était, sur le plan scientifique, un personnage extrêmement imposant. C'était l'Aristote des maladies nerveuses à la fin du 19e siècle le monde. Et puis surtout, Charcot était un mondain qui avait une vie mondaine très développée. Il habitait un hôtel particulier qui est aujourd'hui la maison de l'Amérique latine, boulevard Saint-Germain, qui est donc un hôtel particulier extraordinaire avec un très grand jardin, et c'était rempli de livres et rempli de sculptures. Et Freud, jeune étudiant à 35 ans, se retrouve là, voit ça, les bras ballants, n'est-ce pas ? Il est émerveillé par la prestance et par la culture de Charcot, et c'est sûr que c'est un modèle, ça a été à la fois un modèle scientifique et à la fois un modèle mondain. Et le fameux tableau de Brouillet...
qui était en face des pattes de la patiente.
Alors, le tableau de Brouillet a été peint en 87, Freud est venu en 85, donc il ne figure pas sur le tableau, il n'a pas pu le voir, mais il revient en 88 pour un congrès de psychanalyse, de psychologie, à Paris, et là, il va acquérir cette gravure, qui est une gravure donc qui en noir et blanc, qui représente le tableau, sur laquelle sont notés le nom de tous les protagonistes, parce que c'est pas du tout un tableau, même si le tableau est recomposé, c'est un tableau documentaire, on pourrait
dire. C'est un petit peu comme les tableaux de Fontaine-Latour, on voit les acteurs
voilà,
de l'époque.
Voilà,
un petit peu,
on voit les acteurs
de l'époque. C'est un souvenir, alors, pour lui,
C'est un souvenir, parce qu'il l'a vécu. Et donc, il va acquérir cette gravure et il va la placer juste à l'entrée de la porte de son cabinet, juste du côté droit, et il va vivre avec cette gravure.
Gérard Dalle, vous voulez...
Oui, dans la culture allemande, il y a un personnage dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est fondamental, qui s'appelle Winckelmann.
Oui.
Winckelmann a marqué l'histoire.
Le grand archéologue découvrant
voilà,
trois.
Qui découvre, voilà. Et à tel point que Goethe a dit que ce siècle sera appelé un jour le siècle de Winckelmann. Je vous rappelle une chose, c'est que Winckelmann est dans une ville qui s'appelait Stendhal. Et que probablement notre Henri Bay national a pris comme pseudonyme, c'est vous dire l'importance qu'avait Winckelmann. Winckelmann a marqué...
Allez au bout de la phrase. A pris comme pseudonyme.
Il a pris Henri Bell, donc notre Stendhal, a pris comme pseudonyme le nom de l'endroit où est né Winckelmann. Mmh. Et Winckelmann a marqué, l'archéologie. C'était la question de l'archéologie. Freud était passionné d'archéologie parce que pour lui, il y avait une similitude. Au fond, il se considérait comme un archéologue du psychisme humain. Et donc, il s'est intéressé également, il a écrit ce fameux...
Délire et rêve dans la Gradiva de Janssen.
La Gradiva, qui est un très beau texte.
Le texte d'ailleurs de Freud est très beau, mais le texte de Janssen, pour ceux qui veulent le lire, est formidable. Ça se lit très agréablement.
Si Freud n'avait pas commandé, probablement Janssen aurait été plus ou moins oublié. Et donc, il voulait savoir l'origine, le refoulement dans cette nouvelle de Janssen. On voit comment l'amour de ce jeune homme pour cette fille a été refoulé, comment il revient sous une forme hallucinée en se promenant à Pompéi, etc., etc. Et donc cette passion, ces bibelots, c'était de l'archéologie plus que de l'art, à mon avis.
Oui, parce que je pense que la grande idée de Freud, c'est que finalement, les mythes fondateurs de l'humanité sont partagés par l'humanité. C'est-à-dire, quelle que soit la culture, finalement, les grands mythes qui sont à l'origine de toutes ces cultures, finalement, ont des points communs. Et que si on remonte en arrière,
avant Lévi-Strauss, il avait vu cette communauté.
Donc, je pense que c'est pas tellement sur un plan esthétique qu'il s'intéresse à toutes ces statuettes, c'est vraiment parce qu'il sent qu'il est là aux prises avec vraiment l'origine du psychisme humain.
Et en particulier l'Égypte. Alors il avait une passion pour l'Égypte. Il s'est comparé un peu...
Pour un juif, c'était assez normal.
Oh, pas tellement, puisque au fond, l'Égypte, les juifs se définissent comme ceux qui ont quitté et ont rejeté toute cette culture. Lui, il prétend que nous l'avons refoulée, qu'elle est revenue à travers le personnage de Moïse.
Enfin, là, la question du meurtre du père flotte derrière cette...
Elle est omniprésente, elle est massive, et moi, je la conteste. Je pense
pourquoi ?
Je pense qu'il exagère un peu là-dessus, faire de voir dans le parricide l'origine de tout, me paraît une idée excessive. Elle est contraire à l'enseignement biblique. Dans la Bible, vous ne trouvez aucun parricide. Aucun. La Bible, vous savez, ce n'est pas un texte à mettre entre toutes les mains. Il y a de tout. Il y a des viols, il y a des incestes, il y a des... il n'y a pas de parricide. Par contre, ce que nous dit la Bible, c'est que la racine du drame humain, c'est le fratricide. Tout de suite, chapitre 3, Caïn, le premier homme conçu par les voies normales, tue son frère. Et cette rivalité fraternelle, à mon avis, j'appellerais ça le ghost, le fantôme qui hante Freud. Il ne veut pas voir le fratricide. Alors qu'il est embêté par ça, parce qu'il a eu un frère qui s'appelait Julius, qui est mort quand il avait un an et demi, et Freud écrit « J'en ai éprouvé une grande culpabilité ». Personnellement, je pense que ce que j'ai appelé le complexe de Caïn, qui est le titre d'un de mes ouvrages, il faut rééquilibrer le parricide de Freud que je garde. Je ne suis pas un hérétique. Par ce que la Bible nous enseigne, l'importance de la rivalité fraternelle. Ce à quoi on assiste tous les jours, c'est la rivalité fraternelle.
Oui, c'est le drame de l'aujourd'hui. Je voudrais vous ramener sur la question de notre exposition, juste parce que, évidemment, on pourrait reprendre tous les concepts de Freud et ça serait un petit peu long, bien que passionnant. Juste une question de plus. Vous étiez en train de parler de l'archéologie et vous parliez de la superposition, comme ça, cette sorte de d'effort, comme ça, pour aller au cœur de la psyché, et au fond, c'est un moteur que l'on retrouve chez des grands historiens d'art, par exemple...
Warburg,
c'est ça, c'est les ressorts de la psyché humaine à travers la
constante... Dans un hôpital psychiatrique, il a fait
oui, dans l'étude de la constante, finalement, des représentations, et de l'histoire des représentations qu'on superpose. Donc, on est dans un climat psychique un petit peu semblable.
C'est ça. Interroger l'origine, interroger... Et comment, vous l'avez bien dit, ça se superpose ou... Ça se traduit. Il a écrit un texte, comme une lettre, où il parle de la traduction suivant dans l'évolution d'un sujet ou d'une civilisation. Elle traduit, ou chacun de nous traduit dans une langue nouvelle, des expériences antérieures. Et le but de la psychanalyse, c'est de démonter ces traductions pour arriver au texte initial. Avec ce principe initial que pose Freud, c'est que le dernier mot, nous ne l'aurons jamais. Ce qu'il appelle le refoulement primaire qu'on ne peut pas lever. Voilà.
Alors c'est peut-être le sujet, on y reviendra tout à l'heure, du dernier tableau de l'exposition. Écoutons un instant Jean-Claire qui évoque cette question de la passion des images.
Freud s'était en un premier moment passionnément laissé envahir par la fascination des images. Ce sont ces images que nous tentons ici de classer, d'ordonner, selon des ensembles parmi lesquels Freud tentait de trouver un sens au fonctionnement de la Seele, l'âme, vaste, informe, infinie, et rumoreuse comme la mer. Ce sont d'abord les images scientifiques de ses années d'étudiant, dans la décennie d'après 1874, lorsqu'il suit les cours de l'anatomiste Ernst von Brücke, porté par son admiration du positivisme des physiologistes Hermann von Helmholtz et Émile Dubois-Raymond, dont il rêve de suivre l'enseignement. Dessins rigoureusement anatomiques des coupes animales du pétromyson. Schémas dont les courbes et les flèches préfigurent parfois si curieusement les dessins des neurones et des circuits neuronaux que réalisera l'Espagnol Santiago Ramón y Cajal. Et tout autour de lui, ses instruments de mesure, de quantification, de codification des mécanismes, des émotions et des sensations. L'enregistrement des sons, des mouvements, du corps, des physiognomonies de Franz Xaver Messerschmitt, dont l'œuvre sera étudiée par Ernst Kriss jusqu'aux décompositions photographiques des mouvements du corps d'Étienne Jules Marais, donc un peu, sans doute, de l'âme elle-même. L'âme. Et ses expressions pouvaient se dessiner et se laisser mesurer.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez l'art et la matière et nous sommes en train d'explorer cette exposition fascinante qui est au musée d'art et d'histoire du judaïsme, Freud, du regard à l'écoute. On a déjà exploré le début de la signification de ce titre que Gérard Haddad avec moi trouvait extraordinairement opportun. Et pourtant nous sommes passés comme ça et nous continuons à passer à travers l'amour des images parce que cette exposition, comme beaucoup d'expositions, réunit un nombre d'œuvres très singulières. Et Gérard Haddad, vous vous intéressez à... Vous avez très bien connu un autre psychanalyste, Jacques Lacan, qui lui avait une vraie passion des images aussi.
Oui, de toute façon, il faut quand même s'entendre. L'image était importante pour Freud. Il a écrit un de ses textes les plus importants qui s'appelle L'introduction au narcissisme. L'introduction au narcissisme, c'est le rapport à l'image.
Mais même l'interprétation des rêves, c'est un rapport à l'image.
Oui, c'est un rapport à une image un peu particulière qui est déformée, le rébut, etc. Lacan a une phrase sur la beauté, la question de la beauté. Lacan disait, la beauté, c'est le dernier rempart, je cite de mémoire, c'est le dernier rempart avant l'horreur. Ce qui nous permet de supporter l'horreur de notre existence, de la mort, de la castration, de la maladie, c'est la beauté. La beauté nous permet de nous supporter. voilà, je crois que c'est dans son texte qui s'appelle
Kant avec ça.
Philippe Comard.
Bah, sur la beauté, c'est assez intéressant parce que, certes, Winckelmann, c'est le grand esthète du XVIIIe siècle, mais Freud va être très très marqué par les théories darwinistes. Or, Darwin est le premier scientifique à avoir essayé de donner une définition biologique de la beauté. Dans L'Origine des espèces, publié en 59, pas dans la première édition, mais dans la troisième édition, il a un chapitre qui s'appelle « Comment s'acquiert la beauté ?». Et dans ce chapitre, Darwin va expliquer que, en fait, la beauté, c'est le nom que les hommes donnent à l'attirance sexuelle. Et à partir de là, il va montrer que, je ne sais pas si les oiseaux ont des plumages très colorés, en fait c'est simplement pour favoriser la reproduction. Si les fleurs ont des parfums délicieux et des corolles éclatantes, c'est simplement pour favoriser la reproduction en attirant des insectes, etc. Et quand nous disons qu'un homme est beau ou qu'une femme est belle, c'est simplement qu'elle est sexuellement attirant. Mais il va introduire une nuance par rapport à Freud qui est très intéressante. Il va dire que la dissimulation des organes liée au développement de la civilisation va faire que finalement c'est un détour en quelque sorte. C'est le détour que l'œil va faire pour ne voyant pas les organes sexuels, l'œil va en quelque sorte s'attacher à d'autres parties du corps, ce qu'il appelle les caractères sexuels secondaires.
Et c'est le déplacement.
Et c'est ce déplacement qui constitue la beauté chez les êtres humains. Et par exemple, pour prendre un exemple très simple, si tous les Apollons et les Hercules de l'Antiquité grecque, 4e, 5e siècle, sont tous frappés de micro-génitomorphie, c'est-à-dire de sexe totalement puéril. Si les Vénus et les Aphrodites ont un triangle glabre sans voie d'accès, c'est parce que ces gens-là ont inventé fondamentalement ce que serait l'érotisme, c'est-à-dire la beauté, le fait que nous ne voyons pas les organes sexuels, mais nous déplaçons notre regard sur d'autres parties du corps que nous pouvons regarder sans culpabilité, alors que quand nous sommes face au sexe, nous sommes dans un rapport où la libido se jette en quelque sorte à l'état premier. Et donc c'est ce décalage entre les deux qui est caractéristique.
Cher Haddad, cette libido, c'est quoi? C'est une énergie, la libido.
Je ne suis, oui, c'est l'énergie psychique. Moi, je ne suivrai pas. Vous savez, Freud, personnage considérable, mais il a peut-être ses limites. Et ramener la beauté uniquement à cela, quand je regarde un beau paysage, je vois pas trop où est la reproduction là-dedans.
Marie Bonaparte vous dirait que en fait c'est un sentiment océanique de fusion avec le monde
qui rejoint. Ça c'était Roland
qui a dit. Non, mais même c'était repris par Marie Bonaparte, disant qu'en fait on retombait en fait dans le nourrisson pour qui les limites entre son propre corps et le monde extérieur ne sont pas véritablement définies, et que ce sentiment de fusionnel avec la nature en fait correspond aux premières sensations de plaisir.
Oui, mais c'est ce qui rend le nourrisson tyrannique.
Ah peut-être, mais peut-être que la beauté est tyrannique.
Moi, je pense qu'il y a peut-être une autre raison, c'est que Freud avait une phobie d'aborder la question religieuse. Parce que cette beauté, au fond, nous fait toucher à quelque chose qui pourrait être de l'ordre du divin. Il se méfiait de cette affaire de divin. Alors, c'est quelque chose d'incontournable. C'est quelque chose d'incontournable. Je pense que la beauté aussi renvoie... Tout ce que vous avez dit me paraît juste, mais le limiter uniquement à cette histoire de sexualité masquée de reproduction, je vous dis, quand je regarde une petite forêt, une rivière qui coule sous les saules, vous n'allez pas me dire que c'est pas l'infini, c'est un petit coin de et puis vous trouvez ça beau et vous sentez apaisé, je pense qu'il y a là un petit côté un peu limité que quelqu'un comme Lacan n'aurait pas suivi jusqu'au bout.
Alors une question tout de même qui flotte comme ça quand on est dans cette exposition, qui n'est pas n'importe où, elle est dans le musée d'histoire du judaïsme. Ça a du sens. Il y a quand même un lien avec l'interdiction des images. Est-ce qu'il y a une tension qui se fait chez Freud entre cette abondance des images, ce refus des images, ce goût de la beauté, ce silence du visible? Comment ça s'organise, ce paradoxe?
Cette histoire des images dans le judaïsme, moi personnellement, je la remets un peu en question. Ce qui est interdit dans la religion juive, dans les 10 commandements, c'est l'adoration des images. C'est pas les images elles-mêmes. Il y a des synagogues qui sont...
Enfin, c'est pas...
Doura Europos, il y a des fresques magnifiques, paraît-il, je les ai jamais vues, ils sont en Syrie. Et je pense pas que c'est vraiment les images, mais c'est l'adoration des images. Parce que Dieu ne peut pas être représenté. Et toute représentation de Dieu apparaît pour un esprit juif pieux, comme un peu un scandale, une erreur, simplement une erreur. Et donc, et Freud, de ce côté-là, est resté assez proche de ses racines juives.
Vous, Philippe Comard, vous avez quelque chose à dire sur cet aspect?
Oui, tout à fait. On peut reprendre d'ailleurs dans son dernier livre, Moïse et le monothéisme, il fait vraiment la distinction entre sensualité et spiritualité. Et il dit que le propre de la culture juive est d'avoir privilégié la spiritualité sur la sensualité. Et donc l'image c'est l'illusion, l'image c'est le leurre, l'image c'est ce qui touche les sens, et donc aussi la séduction et toutes ces choses-là. Donc on est à la fois, il y a une sorte de méfiance quasi platonicienne à l'égard des images, mais aussi le fait, je pense que la sensualité de l'image est quelque chose qui est perçu comme allant à l'encontre du développement de la spiritualité. Et ça, c'est en tout cas dans son dernier texte sur Moïse et le Moïse, c'est flagrant.
Tout à fait d'accord. Au fond, le moteur de la pensée freudienne et de Lacan, à mon avis, c'est le même, c'est une quête de vérité. Tout ce qui entrave cette quête, ce cheminement vers la vérité, il faut l'écarter. Et c'est la passion juive, ça, la passion des talmudistes, c'est cette quête de vérité. Qu'est-ce qu'il y a au-delà des apparences? C'est ça, Abraham. Abraham, il dit, il y a mes compatriotes, ils adorent les étoiles, la lune et le soleil, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça? Il doit y avoir quelque chose qui organise tout ça. Cette quête de la vérité me paraît le moteur. Cette épistémophilie freudienne, Lacan a écrit un texte sur la vérité. Moi, la vérité, je parle. La psychanalyse, c'est un peu ça, quoi. Qui voudrait être ça? Moi, la vérité, je parle. Et essayer de l'entendre.
D'ailleurs, si on repense à ses rapports avec le surréalisme, ce qu'il fondamentalement, je pense, ce qu'il n'a pas compris, ou la méprise, ou la mésentente entre les surréalistes et Freud, c'est que Freud ne comprend pas finalement l'intérêt que Breton porte au fait de pouvoir représenter quelque chose qui est associé au rêve, parce que précisément, pour Freud, l'image rêvée, c'est-à-dire le sens manifeste, et non pas le sens latent, n'a pas d'intérêt en soi, alors que pour Breton, c'est finalement le caractère incongru de l'image rêvée qui est porteuse de poésie.
Et ça l'intéresse pas.
Et ça, ça l'intéresse pas du tout.
Non, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la logique, la construction. Peut-être, on va écouter un instant un extrait de Freud, c'est dans L'homme, Moïse et la religion monothéiste, texte de 39, et on va revenir sur ces questions juste ensuite.
Parmi les prescriptions de la religion de Moïse, il s'en trouve une qui est plus chargée de signification qu'on ne pense d'abord. C'est l'interdiction de se faire une image de Dieu, donc l'obligation d'adorer un Dieu que l'on ne peut voir. Si on admettait cette interdiction, elle devait nécessairement exercer une action en profondeur, elle signifiait en effet une mise en retrait de la perception sensorielle au profit d'une représentation qu'il convient de nommer abstraite. Un triomphe de la vie de l'esprit sur la vie sensorielle, à strictement parler un renoncement aux pulsions, avec ses conséquences nécessaires sur le plan psychologique.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière et nous sommes en train de parler de l'exposition Du regard à l'écoute Freud qui se trouve au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Philippe Comard voulait dire un mot sur ce texte qu'on vient d'entendre sur la religion de Moïse, l'interdiction de la représentation, le renoncement aux pulsions.
Oui, on est toujours, si on veut caricaturer un tout petit peu les choses, on peut dire que Freud n'est pas du tout pour la libération sexuelle des années 70, tout ça, il est très loin de ça. Il considère par contre que si on refoule trop nos pulsions, on devient névrosé, mais que si on laisse libre cours à nos pulsions, on devient sauvage. Et donc, en fait, l'être humain n'a pas beaucoup de choix entre être sauvage ou névrosé, et la marge entre les deux est extrêmement étroite.
Dans la théorie freudienne, on ne peut pas renoncer aux pulsions. Si vous refoulez vos pulsions, elles reviennent, le retour du refoulé, le boomerang peut être ravageant. Ce qu'il souhaitait, lui, c'est la sublimation des pulsions. Il faut trouver une issue à cette pulsion, une issue qui soit socialisable.
L'art, c'est une sublimation.
L'art est une sublimation. L'art est une sublimation. Le travail est une sublimation. C'est la meilleure sublimation de nos pulsions. Il définissait la pulsion d'un terme constant Kraft, ce qui veut dire une force constante. Si elle est constante, vous pouvez pas la supprimer. Vous pouvez la sublimer. Dans le travail essentiellement, dans l'amour,
dans la recherche scientifique.
Dans la recherche, dans toutes ces activités. Par exemple, et ça, dans le Talmud, par exemple, on trouve l'esquisse de cette théorie. Par exemple, on vous dit, si vous aimez, si quelqu'un a des pulsions sanguinaires, eh ben, qu'il se fasse chirurgien. En ce moment-là, il pourra verser le sang pour une cause juste. Ou qu'il devient circonciseur, même, ils disent. Donc, cette théorie de la sublimation, est plusieurs fois illustrée dans le Talmud, l'homosexualité, par exemple. Il y a une histoire d'homosexuel dans le Talmud, des deux grands maîtres fondateurs du Talmud, un certain Rabbi Yochanan et son Reish Lakish, qui étaient à deux doigts de passer à l'acte, si vous voulez. Et l'autre lui dit, non, il vaut mieux que nous consacrions toute notre énergie à l'étude. Et ils vont fonder une école en commun où cette pulsion amoureuse va devenir... vous savez que le Talmud, c'est un édifice... équivalent à la muraille de Chine, au point de vue écriture.
Bien entendu. Gérard Haddad, puisque vous abordez cette question des textes sacrés, j'aimerais que vous nous éclairiez sur deux ou trois concepts que vous amenez d'ailleurs dans le texte excellent que vous avez fait dans Du regard à l'écoute, dans le catalogue, très beau catalogue d'ailleurs de l'exposition.
Oui, très bel objet.
Et qui sont, vous parlez de l'interprétation. Vous parlez à un moment de ce moment extraordinaire au XVIIIe siècle, qui est le moment des Lumières, en quelque sorte, dans le monde judaïque. Et vous parlez aussi des techniques d'interprétation. Et vous insinuez, vous affirmez que ça a une influence sur Freud.
Absolument. Alors, il faut que j'ajoute quand même que cette idée ne me serait jamais venue si mon maître Lacan, dans une longue interview qu'il a donnée à la radio belge, qui s'appelle Radiophonie, n'avait pointé la chose, il avait dit, au fond, la psychanalyse, en gros, elle est l'enfant de ces techniques d'interprétation qu'on appelle le Midrash hébraïque.
Qu'est-ce que c'est le Midrash?
Le Midrash, c'est une façon d'interpréter le texte latent. Le Midrash dit la chose suivante, le texte biblique, c'est le texte manifeste. Il y a sous ce texte un autre texte qu'il faut sortir. Exactement la démarche analytique. Le patient me dit quelque chose, qu'est-ce qu'il veut me dire au-delà de ce qu'il me dit. Donc le Midrash va codifier, va énoncer toute une série de règles qu'un certain Rabbi Ismaël va énoncer, 13 règles, qui permettent de manipuler le texte biblique pour lui faire, des fois, le contredire. On arrive à la contradiction. Je prends un exemple, œil pour œil, dent pour dent, le Midrash va dire, c'est pas possible, ça. Il faut pas le prendre au pied de la lettre, il faut... Et il vous trouve le sens de ce texte. Et donc, ces techniques midrashiques...
Il y a une dizaine de techniques type, c'est quasiment une énumération.
Alors, il y a le Rabbi Ismaël qui a défini 13, il y en a un autre qui en a défini 32, et un Hillel qui en a défini 7. Elles se recoupent plus ou moins.
Parfois, c'est des proximités de mots, parfois
c'est... Oui, c'est très des proximités des énoncés. Alors, quelqu'un vous dit deux phrases qui n'ont côte à côte, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Eh bien, là, il faut trouver qu'il y a un rapport entre
donc,
les deux. Et ça, c'est dans le Talmud, c'est dans le Midrash.
Et donc, cette technique, vous pensez que ça a une influence sur la technique d'interprétation? Et pourtant, on dit parfois que l'analyse n'est pas une interprétation. Enfin bon, vous...
Elle n'est pas une interprétation. En psychanalyse, on fait que ça. On interprète. Sinon, qu'est-ce qu'on fait?
On écoute.
Et puis le patient interprète... C'est pour ça que d'ailleurs il avait mis cette expression, la psychanalyse est une paranoïa contrôlée. Donc le paranoïaque, il interprète tout le temps. Mais la psychanalyse, justement, est un processus qui peut ressembler à la paranoïa, mais il est contrôlé grâce à l'analyste et grâce à certaines barrières que l'on met. Donc c'était ce judaïsme antique, au fond, du début de notre ère, à mon avis, va beaucoup marquer Freud dans les années fondatrices de la psychanalyse, c'est-à-dire l'interprétation des rêves, le mot d'esprit, qui est un catalogue d'histoire juive, et puis le psychopathologie de la vie quotidienne. Je pense que par la suite, il s'est éloigné du judaïsme, moi, personnellement. Contrairement à Jean-Claire, je pense qu'au contraire, il a essayé de se débarrasser de son judaïsme, et ça l'a amené à une sorte de névrose qui a beaucoup pesé sur l'histoire de la psychanalyse.
Alors, on va qu'il l'ait abandonné ou pas, ça a certainement fait partie de la constitution de sa personnalité. Il y a toujours une histoire assez forte comme ça du don qu'a fait son père d'un texte sacré.
Oui, Yerushalmi l'a commenté longuement. C'était la Bible. Il a fait une longue dédicace sur la première page en hébreu.
En hébreu, justement.
Cursif.
Ça veut dire qu'il lisait l'hébreu.
C'est-à-dire qu'il lisait l'hébreu et qu'il comprenait l'hébreu. Il nous raconte des histoires.
Mais c'est une Bible particulière puisque elle était accompagnée d'images, justement.
C'est la Bible de Philipson. La Bible de Philipson, qui est une Bible... Vous voyez que dans le judaïsme, l'image existe. Vous prenez ce qu'on appelle la Haggadah de Pâques. Elle est toujours illustrée. Donc, ce n'est pas l'illustration qui gêne, c'est l'usage qu'on en fait.
Vous pensez que c'est un sujet de débat, un sujet intéressant, cette relation entre le judaïsme et Freud ? C'est fécond comme question ?
Sur le plan de l'histoire de l'art, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y ait de rapport direct. Mais par contre, sur l'idée de toujours du sens manifeste, du sens latent, du fait de vouloir décrypter, lire, relire, etc., on peut penser qu'il y a un certain nombre de mécanismes en peinture qui sont tout à fait analogues. L'un des concepts fondamentaux de la psychanalyse, c'est le refoulement. C'est même un des premiers concepts de la psychanalyse. Et l'un des mécanismes qui permet précisément de refouler pour Freud, c'est le souvenir écran. Et souvenir écran, pour des gens qui s'intéressent aux images, on est tout à fait dans la peinture.
C'est Alberti.
C'est l'idée surtout qu'il y a une chose, mais il y a une chose qui vient se placer devant et que finalement, peut-être une des questions importantes qu'on peut se poser en peinture, ça n'est pas tellement ce que montre une peinture, mais c'est ce que cache une peinture.
Oui, évidemment.
Et il y a de nombreux exemples, mais par exemple, l'expérience fondatrice de la perspective au Quattrocento avec Brunelleschi, il peint le baptistère de Florence sur un petit panneau, et puis il tourne le dos à cette planche, n'est-ce pas, au milieu de laquelle est percé un trou, et donc il va imposer en quelque sorte l'idée que la peinture occidentale, c'est d'abord un écran, c'est d'abord quelque chose qui cache. Bon, et donc quand on regarde un tableau, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que cache ce tableau ? Et on s'aperçoit qu'en fait, cette question est très féconde, parce que la scène représentée n'est jamais forcément la scène exacte que le peintre a voulu montrer, au sens où c'est toujours quelquefois juste avant l'acte, juste après l'acte, et une grande partie finalement du rapport que l'on peut avoir aux œuvres, c'est pas un rapport d'immédiateté, c'est pas simplement ce que montre la peinture. Et je pense que le plus bel exemple, et qui est présenté dans cette exposition, c'est l'origine du monde de Courbet. Quand vous pensez que l'origine du monde de Courbet, ses trois successeurs successifs ont tous les trois caché le tableau, c'est-à-dire d'abord ce fameux diplomate turco-égyptien qui est présenté son tableau derrière un rideau vert, il y a des descriptions de Maxime Ducamp, des frères Goncourt sur la façon dont il présentait le tableau. Ensuite, quand Advani va racheter ce tableau, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre un tableau de Courbet qui a exactement le même format, qui représente une forteresse imprenable. Il était déjà bon freudien. Il visse littéralement ce tableau sur l'origine du monde pour pouvoir l'emporter à Budapest. Et quand le tableau revient en France et qu'il sera... concours de circonstances assez incroyable, acheté par Jacques Lacan en 1955, eh bien, il va demander à son beau-frère, Masson. Aussi André Masson, de faire un nouveau panneau. Et là, c'est très intéressant.
Ce panneau, c'est un paysage.
Et alors, oui, mais regardez,
il y a quand même
et alors, justement, c'est ça, c'est typique, c'est exactement le souvenir écran pour Freud, c'est-à-dire que c'est un paysage édulcoré, on voit que c'est un peu anthropomorphe, mais si vous ne savez pas trop ce que c'est, vous ne pouvez pas véritablement dire.
Il est buissonnant.
Il est buissonnant.
Jolie expression.
Voilà. Et vous savez que quand Lacan avait ce tableau dans sa maison de campagne...
Je crois qu'il était aux 3 rues de Lille, dans son domicile.
Non, je crois qu'il était dans sa maison de campagne.
Enfin, là, il n'est pas au cabinet.
Enfin bon,
il est peut-être passé d'un endroit à l'autre. Hein.
Les gens qui ont raconté la façon dont Lacan montrait le tableau, ils disaient, regardez, je vais vous montrer le tableau. Alors les gens regardaient ce tableau de Masson qui n'est pas extraordinaire. Et puis très 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 doucement, n'est-ce pas, en tirant le tableau, ils regardaient, ils fixaient dans les yeux ceux qui découvrait en quelque sorte ce tableau que personne ne connaissait. Bon. Donc là aussi, on est dans un rapport de cacher et de montrer, et puis c'est d'autant plus intéressant que ce qui est caché ici, c'est précisément la chose à ne pas voir, ou difficile à voir, ou qu'on voudrait voir, mais qu'on n'ose pas voir. Donc,
c'est l'objet petit A
Non, c'est, vous savez, le dernier texte de Freud, n'est-ce pas, sur la tête de Méduse.
Oui.
Petit texte, mais tellement important.
Qui était sur la chlamyde d'Athéna. Oui. Qui est une des statuettes qu'il a essayé d'emmener à Londres en loose day, comme on dit.
Voilà. Bon. Donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'au fond, le drame humain, c'est de ne pas pouvoir, pour un homme, au sens du masculin, voir le sexe de la femme. C'est le grand traumatisme. Et les femmes, elles, par contre, se disent « Mais pourquoi ils sont si angoissés de nous voir ?» Et donc, c'est l'origine du psychisme, ce tableau. Je dirais presque que ce tableau est à prendre au pied de la lettre, cette expression, l'origine du monde. L'origine du psychisme, il est là, quoi. L'origine du complexe de castration, qui est le concept fondamental chez Freud.
Et on est presque, c'est le même titre presque que l'origine des espèces de Darwin, 1859 pour l'un, 1866 pour l'autre. Il y a beaucoup de points communs.
Mais quel beau tableau quand même.
Ah mais c'est un chef-d'œuvre.
C'est un chef-d'œuvre absolu. Voilà.
Mais
je me régale de le voir. Moi.
Mais en même temps, c'est bien de voir que ce tableau, même aujourd'hui, conserve...
Bravo d'avoir obtenu ce prêt pour l'exposition.
Ah, merci au Musée d'Orsay, parce que c'est leur jeu combat. Ouais. Mais ce tableau reste problématique dans sa manière, dans sa monstration, quand on voit les problèmes qu'il y a sur les réseaux sociaux pour pouvoir le diffuser sans qu'il y ait des censures. On voit que ce tableau restera fondamental.
C'est une dation de la famille.
Oui, c'est une dation.
Ils auraient pu le garder et donner autre chose, mais ils ont donné celui-là. Oui. Eux-mêmes s'en sont débarrassés, ce qui.
Et d'ailleurs, alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition, mais qui la verront, j'espère, le tableau est présenté à côté du panneau de maçon, alors que le panneau de maçon reste propriété de la famille Lacan.
Alors, une question sur la fin de l'exposition que vous avez. Non, partiellement conçu autour de Jean Clair, ou en tout cas accompagné. Le dernier tableau en face du Moïse de l'École des Beaux-Arts de Paris, en face du Moïse de l'École des Beaux-Arts de Paris, il y a Rosco, un tableau de toute beauté.
De toute beauté.
Et incroyablement laconique, silencieux, pour une exposition consacrée à la parole. Pourquoi en finir là ? Vous avez une minute, Gérard Haddad.
Oui, mais c'est pas moi qui l'ai choisi, donc il faut demander ça à Jean Clair et peut-être à M. Comard.
Mais vous en pensez quelque chose ?
Écoutez, moi c'était le Moïse qui m'a surtout arrêté, parce que le Moïse, le vrai Moïse, si je puis dire, qui se trouve à Saint-Pierre-aux-Liens, c'est une sculpture, vous pouvez faire le tour. Moi je suis bouleversé à chaque fois que je vais à Rome pour voir cette sculpture. Et le moulage en plâtre ne rend pas du tout...
Oh zut alors, moi qui étais assez content, c'est un beau moulage 19e,
c'est un très très beau moulage.
Mais c'est pas la même chose.
Bon, alors le Rothko, il y a quelque chose de l'ordre du mystique dans la peinture de Rothko, de cette espèce de... Il instaure le silence absolu, ce tableau.
C'est la fin de l'analyse.
C'est la fin de l'analyse. Mais la fin de l'analyse, c'est peut-être reprendre la parole à son compte.
Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Comard ?
Je pense que, en tout cas, chez Rothko, qui était quand même, rappelons-le, un juif de famille traditionnellement juive et qui avait lu Freud, etc., qui d'ailleurs utilise les couleurs du temple de Jérusalem pour faire ce tableau, eh bien, il y a surtout la volonté d'échapper à l'illusion de la profondeur, c'est-à-dire à l'illusion des images, pour se retrouver face à face avec la vérité. Et donc, voilà. C'est une vérité qui n'a pas de profondeur, mais qui est la vérité.
Merci à tous les deux. Merci Gérard Haddad. Merci Philippe Comard.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Gérard Haddad, écrivain et psychanalyste, et Philippe Comard, artiste et professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris. C'était une émission préparée en collaboration avec Seam Boutata. Lecture des textes, la belle voix de Claude Aufort, prise de son Alain Joubert, réalisation Franck Lilin. Merci Franck. Bon après-midi sur France Culture.